Ça va, la digestion n'est pas trop difficile? Vous arriverez à résister une heure et demie de prédication? Ça devrait aller. Pouvoir vous annoncer donc le message de l'Évangile. Le thème demeure et reste toujours « Tout est possible à Dieu ». Tout. C'est-à-dire tout. Il n'y a pas de « oui mais », c'est tout. Le problème souvent c'est « oui mais ». Eh bien, il n'y a pas de « oui mais », Dieu peut tout. Il désire se révéler à tous et il désire manifester sa gloire dans tous. Dans le témoignage tout à l'heure, eh bien, il a été dit beaucoup de choses intéressantes, très intéressantes, déjà pour ceux qui vivent eh bien, ces choses, pour les personnes eux-mêmes, mais en même temps qui suscitent chacun le désir eh bien, de s'accrocher au Seigneur et de rechercher dans la parole de Dieu ce qui vient de lui pour susciter notre foi. Parce que ça, c'est important. La foi vient de ce que l'on entend. Il y a un petit cantique que j'aurais aimé chanter. Je ne sais pas qui le connaît. Dans la nuit, jaillira ce cri. Qui le connaît? Ah, très bien. Vous êtes du voyage? Très bien. Alors, j'ai une petite chorale avec moi. Voilà, parce qu'avec les frères du voyage, souvent, en fait, j'allais sous chapiteau ou bien ils venaient prêcher dans les églises. Et en fait, j'ai appris quelques petits chants sympathiques. Vas-y voir, ça donne quoi? Dans la nuit, jaillira ce cri. Jésus vient. Tant l'oreille est prise. Tant l'oreille est prise. Que ta lampe soit allumée. Que ta lampe soit allumée. Le matin vient. Le matin vient. Voici le bien-né. Mais on reprend la première strophe. Dans la nuit, jaillira ce cri. Jésus vient, tant l'oreille est prise, que ta lampe soit allumée. Le matin vient, voici le bien-aimé. On le reprend une troisième fois, c'était le brouillon, on va l'écrire proprement et on va le chanter correctement. Et puis pour la digestion, si on le chantait en se levant, ça serait mieux, ça va vous aider à digérer pour ne pas vous endormir pendant que je parlerai tout à l'heure. Dans la nuit, jaillira ce cri. Jésus vient, tant l'oreille est prise, que ta lampe soit allumée. Le matin vient, voici le bien-aimé. La deuxième strophe. Jésus vient, il me l'a promis, il me l'a promis. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Viens à lui, il est ton sauveur. Viens à lui. Il est ton sauveur. Le matin vient. Le matin vient. Voici le bien-aimé. Allez, on reprend la deuxième strophe. Jésus vient. Il me l'a promis. Il me l'a promis. Sa parole est la vérité. Sa parole et la vérité. Viens à lui, il est ton sauveur. À lui, il est ton sauveur. Le matin vient. Le matin vient. Voici le bien-aimé. Allez, on le reprend dans l'entier. C'est bien, vous avez de la mémoire parce que vous n'avez pas les paroles, hein? ça fait travailler un petit peu. Notre cerveau, ça fait du bien. Alléluia, et notre cœur. Dans la nuit, jaillira ce cri. Jésus vient. Tant l'oreille est prise. Tant l'oreille est prise. Que ta lampe soit allumée. Le matin vient, voici le bien-aimé. Jésus vient, il me l'a promis. Jésus vient, il me l'a promis. Gloire à Dieu. Sa parole est la vérité. Viens à lui. Il est ton sauveur. Le matin vient, voici le bien-aimé. Amen. Vous chantez bien, vous êtes ma chorale, donc demain on rechantera. Hein? Comme ça vous le connaîtrez par cœur. Alors le thème, tout est possible à Dieu, on va aller dans Marc pour lire le verset de base. Marc, évangile. Selon Marc, chapitre 10, vous savez qu'il y a quatre évangiles. Vous savez que souvent, même les gens qui ne croient pas en Dieu disent « ne le crois pas parce que ce n'est pas parole d'évangile ». Même ceux qui ne croient pas en Dieu attestent que l'évangile, c'est la vérité, que ce qui est écrit dans ce livre, c'est bien la parole authentique de Dieu. Même ceux qui ne croient pas l'attestent. C'est quand même merveilleux, hein ? Donc nous l'avons avec nous, nous allons la lire. Elle est la vérité. Et comme elle est la vérité, elle est parole de Dieu. Elle est puissante. Vous savez que, même si les scientifiques nous disent que, et bing bang, et le monde fut créé, il y a eu une implosion qui a donné tout ce que nous voyons, qui s'est organisé comme si une explosion pouvait s'organiser. Et au fond, tout s'est fait presque par la voie du hasard. Moi, je trouve que le monde, c'est plutôt le bazar qu'autre chose. Rien n'est fait au hasard. Vous n'êtes pas venu par hasard. Même si vous êtes curieux, la curiosité viendrait sans doute de Dieu. Mais en tout cas, vous êtes des créatures que Dieu aime, des hommes capables de penser, de réfléchir, capables d'inventer. Nous sommes inventifs, même des fois inventifs au mal, hein, pas qu'au bien. Et au fond, on est capable de créer comme Dieu est créateur, car il nous a amenés à sa ressemblance. J'ai lu un petit peu les dernières paroles, c'était peut-être pas les derniers, peut-être dans les derniers jours, de ce qu'a dit Steve Jobs. Ça vous dit quelque chose ? Jobs ? Je crois. Ça vous dit quelque chose, ça vous parle de pommes, hein ? Ça vous parle d'Apple. Il a dit quelque chose d'assez important quand il était dans sa chambre d'hôpital et qu'il savait qu'il allait mourir. Il disait que toute sa vie, il a cherché à gagner beaucoup d'argent, mais que le vrai bonheur de sa vie, en fait, il ne l'a pas vécu en gagnant de l'argent car il était très seul. Il se trouvait misérable, très seul, toute sa vie. Et au fond, il était emporté par le travail, par tout ce qu'il faisait, par l'argent lui-même. Mais qu'au final, là, dans sa chambre d'hôpital, en écoutant les machines, en voyant les petites lumières sur les machines, qu'ils soient vertes ou qu'ils soient rouges, il était face à lui-même et qui disait que si Dieu, puisque Dieu avait créé, donc il n'avait pas mis en doute le fait qu'il y ait un créateur, que le Bing Bang, c'est Dieu qui a parlé, les choses se sont mises en place. Et il disait que aujourd'hui, tout ce qu'il avait gagné dans ce qu'il vivait ce jour-là et dans ce qu'il a écrit, il disait qu'au fond, ça ne servait pas à grand-chose puisqu'il n'emportait pas là où il allait. Et que l'important, disait-il, c'était ailleurs. C'était seulement maintenant qu'il s'en rendait compte. Je ne vous dirai pas, et parce que je n'en sais rien, avait-il reçu dans son cœur le Sauveur. Ce que je sais dans ce qu'il écrit, c'est qu'il parle de Dieu. Mais parler de Dieu ne suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sauvé ou qu'il n'a pas été sauvé plus tard. Parce que la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous avons par expérience ce que nous raconte l'Évangile, la parole de Dieu, qui nous parle d'hommes qui sont morts et à la limite de leur mort, ont fait le bon choix. Donc je ne sais pas quel est son choix et ça ne m'intéresse pas, car pour lui, c'est fait, il est parti dans l'éternité. Alors, j'aimerais vous lire le texte de base qui est le nôtre, dans Marc 10, à partir du verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Prions le Seigneur un instant. Seigneur de gloire, nous sommes heureux. Heureux de pouvoir être là, cet après-midi, à écouter ta parole qui est puissante. Cette parole qui produit la vie dès qu'on la croit. Cette parole qui produit le renouveau dans les cœurs dès qu'on l'applique à nos propres vies. Je te prie pour cela, te demandant une grâce particulière sur tout l'auditoire et que ton esprit agisse en chacun au nom de Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui donne vie, tu as voulu que l'on vive, mais tu veux plus que cela. Tu veux en chacun une nouvelle naissance, un renouveau, que ceux qui ne te connaissent pas puissent t'accueillir comme étant la vie véritable, le véritable Seigneur, le seul, l'unique Sauveur, car sans toi on ne peut pas être sauvé. Je te demande ta grâce sur chacun, ta bénédiction sur chacun, que cet après-midi les malades puissent croire que tu es capable de les guérir même instantanément, que cette foi soit dans le cœur de chacun, chacune, au nom de Jésus, que tu poses ta main, le Seigneur, ceux qui ne sont pas encore sauvés le soir, et qu'ainsi ils partent joyeux, et ils ne repartent pas perdus, mais Seigneur, assurés d'être sauvés, au nom de Jésus. Amen. Je crois dans l'action du Seigneur. Lorsqu'il y a eu la création divine, et je trouve ça tellement extraordinaire, tout fut organisé dans l'univers. Je fais deux mots, univers. Vers. On a été créé pour ne pas vivre seul, mais pour être unis, pour se tourner vers celui qui est le Créateur. Nous avons en nous tous, que l'on veuille ou pas, la pensée de l'éternité que Dieu a placée dans nos cœurs. Même celui qui ne croit pas, cette pensée demeure en lui. Même s'il dit non, c'est pas vrai, eh bien, chaque fois qu'il écrira sa date de naissance, chaque fois qu'il fera un chèque, il inscrira une date. Ça sera toujours par rapport à Jésus-Christ. Et plus il inscrira de date, plus le temps passera, et plus il songera à la fin de son temps. Qu'on le veuille ou non. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, tiens, mais qui c'est cet homme? Quand je regarde ma photo de mariage... Et l'homme qui a sur le miroir, je me dis là, cherchez l'erreur. Une petite fille de 4 ans est venue à la maison, et puis elle a vu ma photo de mariage. Et elle dit à ma femme, elle lui dit, il est où ton autre mari? Alors ma femme lui a dit, bah, c'est toujours le même. Elle dit, non, non, je ne parle pas de Bruno. De tonton Bruno, je parle de ton mari qui est sur la photo. Et c'est là qu'on réalise que le temps fait son œuvre et que l'homme ne change pas, il devient plus mature, vous comprenez bien. Et j'ai de plus en plus de maturité. Mais ne riez pas, vous aussi. C'est pas que ça me réjouit, mais c'est comme ça, c'est le temps. Le temps passe, et le temps va très vite à passer, et je crois que plus il a passé, plus on se rend compte que ça passe encore plus vite. C'est une réalité. Ce Dieu a créé l'univers, tout s'est mis en ordre. Quand je dis qu'au fond, ce qui est merveilleux, c'est qu'on vit déjà, parce que des gens ne croient pas qu'un jour on ira au ciel. Mais ouvrons les yeux, on vit où? Où vivons-nous? Sur la terre, bien sûr. Mais si vous regardez en l'air, c'est du ciel. Si on prenait l'avion et qu'on allait de l'autre côté, je ne sais même pas comment on fait pour marcher les pieds collés à la terre et la tête en bas. Mais c'est du ciel aussi, à droite comme à gauche, il y a du ciel de partout. Non? On sait que la terre est ronde, si on marche tout le temps, on devrait avoir les pieds, la tête en bas. Je me dis, comment un pommier peut garder ses pommes en dessous? Nous, on fait bien d'habiter au-dessus. Je n'ai pas d'explication de tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que quand il pleut trop, il y a des régions qui sont noyées. Mais quand il neige 5 cm, il y a 5 cm partout. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai l'impression que chaque flocon doit tomber exactement à l'endroit où il doit tomber pour faire à niveau la même épaisseur partout. Je ne sais pas, ça doit s'expliquer sans doute. Mais moi, je n'arrive pas à l'expliquer. Moi, je constate. L'eau remplit les creux, il y a plus d'eau à un endroit qu'à un autre. Mais la neige, non, elle recouvre tout pareil. Et on peut dire, tiens, il y a eu 5 cm de neige, on voit partout. Alors, on a vraiment l'impression que c'est calculé. Dieu, quand il a créé l'univers, c'était calculé. Dieu a tout créé. Quand il vous a créé, tout était calculé. Je l'ai dit en souriant hier, mais c'est vrai, vous avez deux oreilles pour entendre la parole de Dieu, au moins une. Vous n'avez qu'une bouche et c'est mieux. Oh, ne riez pas, mais il y a une statistique qui a été faite, je la cite partout parce que j'aime beaucoup. Une statistique américaine dit qu'un homme parle environ 700 mots par jour. Mais une femme, 2500 par jour. Je ne parle pas des pasteurs, parce que pour moi, je suis hors norme. C'est qu'une moyenne, c'est une statistique. Alors imaginez votre mari qui est parti travailler toute la journée. Il a totalement épuisé ses 700 mots. Mais vous, vous êtes restée à la maison toute seule. Vous avez pu chanter un petit peu, ou déchanter parfois. Et votre mari rentre. Il est fatigué, il n'a plus de mots à vous dire. Il a tout vidé. Et vous commencez à parler et à vous mettre en colère parce qu'il ne vous répond même pas. Mais il ne peut plus rien vous répondre. Il a tout épuisé. On n'est pas créé pareil parce que, au fond, l'homme est homme et la femme est femme. Alors imaginez deux bouches. C'est pour ça que Dieu, quand il fait les choses, il les fait bien. Et je disais en souriant, si on avait eu deux bouches, je suis persuadé qu'on n'aurait jamais été d'accord avec nous-mêmes. Ça aurait été terrible, d'ailleurs. C'est pour ça que, au fond, Dieu a placé le nez aussi au milieu de la figure. Meilleure des positions. Imaginez en dessous des bras. Si le hasard avait fait ça, parce qu'on nous fait croire que tout a été fait par hasard. Non, mais franchement. Et on est capable de l'apprendre par cœur et de le croire. Ce qui est pire, c'est ça, en fait. C'est qu'on est capable de croire quelque chose qui n'est pas croyable. Vous trouvez pas ça un peu déraisonnable? Non, oui, enfin je ne sais pas. Ça me paraît tellement plausible. On a tous, deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche, et c'est placé parfaitement. On dit toujours qui a créé l'œuf, qui a créé la poule. On sait très bien que Dieu, quand il crée les animaux, il crée la femelle, il crée le mâle. Puis voilà, pour l'homme, il a fait pareil. Dieu a tout créé parfaitement. Il est le créateur. Aux hommes, ce n'est pas possible. Mais Dieu l'a fait. Tout s'est organisé. Tout s'est organisé dans l'univers. Les planètes qui tournent, qui ne tombent jamais. Et on est sur la terre et on est déjà dans le ciel. Où est le problème pour Dieu d'avoir créé un autre endroit après la vie d'ici-bas pour vivre l'éternité ailleurs? Là où lui-même dit qu'il vit déjà. Et Jésus a même dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vous ai dit ce matin que le Seigneur pouvait très bien m'emporter. J'ai eu un accident grave. Je suis tombé de plus de 4 mètres de haut il y a quelques mois en arrière. Mais j'ai eu une chance inouïe, je suis tombé sur la tête et j'ai la tête dure. Je dis ça en souriant, mais j'en ai vraiment bavé. Vraiment. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a gardé. Le chirurgien qui m'a opéré m'a dit, mais vous vous rendez compte, monsieur Kyoki, il y a des gens, ils tombent de 3 marches d'escalier, ils se tuent. Vous êtes tombé de plus de 4... Mais vous vous rendez compte? Je dis, bien sûr. Il me dit, mais il y avait un ange. Je dis, non, il y en avait 2. Il me dit en riant, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, vous n'avez pas vu le poids que je fais, la maturité que j'ai. Ça l'a fait sourire. Mais bien sûr que Dieu m'a gardé. Je suis conscient que c'est seul Dieu qui m'a gardé. Je n'ai pas perdu la raison, je l'ai encore. J'ai juste eu quelques côtes cassées, c'est rien. Une épaule qui était toute travers. Mais après tout, le Seigneur est bon, il a tout rétabli, je peux bouger, je peux... Franchement, c'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et je dis, toi qui as tout créé, Seigneur, tu nous as créés parfaitement et tu désires, pour nous, comme pour vous, chrétiens, c'est que nous puissions témoigner à tous que Dieu est bon, que Dieu nous aime, qu'il a un plan, que certains jours je vais mourir, parce que j'y ai pensé, bien sûr, quand j'étais par terre, personne ne m'entendait, il fallait bien que je me relève, malgré toutes les douleurs. Et je me disais, Seigneur, moi je suis prêt à partir au ciel. Ben oui. Est-ce que nous sommes prêts à partir au ciel? Parce que dans la Bible, il est dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Des gens se posent encore des questions sur l'existence de Dieu. Parce qu'on a cru que c'était la science qui répondait à tout. Un jour, j'ai eu dans mon bureau un scientifique, un homme qui donnait des cours pour les ingénieurs et pour ceux qui font des doctorats. Il est venu dans mon bureau, sa femme m'avait dit, il faudrait que vous puissiez voir mon mari. Et il m'a dit, ben, vous savez, moi je ne suis pas croyant. Mais je dis, ah bon? Il me dit, non, parce que moi je suis scientifique. Je dis, écoutez, je vous arrête de suite, parce que la Bible nous parle de science, et avant même que vous existiez, celui qui était le plus grand des scientifiques, c'est Dieu lui-même. Si vous êtes scientifique et si vous êtes intelligent, c'est grâce à Dieu, et vous devez le remercier. Parce que Dieu nous a créés à son image. On est capable de raisonnement. Et vous avez cette chance inouïe d'avoir plus que les autres. Alors vous devriez montrer l'exemple. Parce qu'avant que les scientifiques n'existent, Dieu nous montre dans les premiers livres de la Bible que Dieu créa le monde. Et l'ordre des choses est établi par Dieu. Et les scientifiques ne font que confirmer et non pas d'infirmer ce que dit l'Écriture. Ils parlent de l'eau. Il parle, eh bien, des poissons en second. Il parle des êtres volants. Ils parleront ensuite de tout ce qui est végétal, de tout ce qui est animal. Et l'homme viendra en dernier. Ils n'ont rien inventé, mais ils vous font croire qu'ils l'ont inventé. Or, l'Écriture en parle dans l'ordre, exactement dans l'ordre. Donc, j'ai dit à cet homme, j'ai dit, avant même que vous existiez, l'Écriture nous en parlait. Cet homme est venu à l'église, hein. Parce qu'au fond, on a besoin de leur parler vrai, de leur parler authentique. Cet homme vivait des problèmes, parce que tous les hommes vivent des problèmes. Et on a prié pour lui, et là, il a été d'accord qu'on prie pour lui. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on n'a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on ne croit pas en Dieu. Ça, c'est du mensonge. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont cru en Dieu. Souvent, certains scientifiques ont osé dire, nous les scientifiques, eh bien, on met du temps avant de croire. On croit quand on n'a plus de possibilités. Tandis que les chrétiens, tout de suite, ils ont cru. C'est beaucoup plus facile pour eux. Mais c'est facile pour eux aussi. Mais simplement, c'est de la mauvaise foi. C'est simplement de la mauvaise foi. Dieu ne s'explique pas. La Bible, ce n'est pas quelque chose qui va vous montrer que Dieu existe par A plus quelque chose. La Bible nous montre les hauts faits de Dieu, que c'est lui qui a créé, parce que rien n'est impossible à Dieu, que c'est lui qui a voulu votre existence, que c'est lui qui a voulu que vous ayez un géniteur et une génitrice, que vous le connaissiez ou pas, il a voulu votre existence, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Quelquefois c'est compliqué dans la vie des hommes, très compliqué. Une jeune femme était venue dans mon bureau pour me dire « Je suis la fille de mon grand-père. » C'est compliqué à vivre. Mais il y avait quand même un géniteur et il y avait quand même une génitrice. C'est compliqué tout ça. Vous ne trouvez pas? Mais c'est un être que Dieu aime. Vous êtes aimé de Dieu. Dieu, il n'aime pas que de temps en temps. C'est son essence. Il aime. et il savait que vous alliez exister. Je vais même dire, il n'aurait pas voulu cela, mais il savait que ça allait arriver comme cela. Mais en tant qu'être, il vous apprécie et il désire que vous veniez à lui, tout simplement tel que vous êtes. Certains se posent la question, si ce Dieu existe, pourquoi il y a du mal sur la terre? Parce que le diable existe. Dieu existe, mais le diable existe. La Bible nous enseigne, et la Bible nous dit clairement que faute de connaissance, le peuple périt. On a besoin de connaître. C'est terrible de rien connaître et de tout inventer. Moi, j'irai jamais voir un médecin qui n'est pas médecin, ou qui invente les choses. Mais nous, on est capable d'inventer les choses concernant Dieu, concernant notre avenir éternel, on les invente comme si on les prenait par-dessus l'épaule. Mais un jour, on s'en va. On a Johnny Hallyday là qui est parti. Hein? Il avait très peur de la mort. On peut dire toute notre vie, « Oh, mais moi, la mort, ça ne me fait pas peur. » Mais elle vient. On peut le dire, oui, on peut le dire un temps. Mais elle vient. Ça ne sert à rien de dire « j'ai pas peur ». Il faut en avoir peur, parce que si on va au mauvais endroit, il y a de quoi en avoir peur. Parce que Dieu a préparé le paradis pour les hommes. Mais pour y aller, c'est tout facile. Aux hommes, c'est impossible. Mais Dieu a préparé un plan précis pour qu'on puisse y aller. Si on accepte Jésus comme sauveur, c'est vraiment simple. On sera sauvé. Des gens vont me dire, « Oh, mais pasteur, moi, j'ai pas besoin. J'ai tellement fait de bonnes choses. » Ça me rappelle l'histoire d'une grand-mère. J'étais dans un hôpital. Et il y avait une grand-mère comme cela que je devais visiter. Cette grand-mère avait sauté de sa fenêtre de 3 étages. Elle voulait se suicider. Hein? C'est terrible ça aussi. J'allais la visiter à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, cette grand-mère n'était pas sur place. Elle était pour passer des examens. Il y avait une autre grand-mère dans la chambre. Et puis je fais un petit peu discussion avec elle, et je lui dis, vous direz à votre voisine que le pasteur est passé. Quand je repars, j'entends une petite voix, cette petite voix intérieure divine, qui me dit, mais t'as pas parlé à l'autre grand-mère? Ben non, j'avais pas parlé. Alors j'étais encore dans l'hôpital, je retourne, et je parle à cette grand-mère. Cette grand-mère, je lui parle de l'amour de Jésus, je lui dis alors, parce qu'elle me dit, quand je lui dis, alors c'est quoi, qu'est-ce que vous avez eu? Elle m'explique. Col du fémur, 88 ans, elle me dit, je crois que je suis au bout. Je ne vais pas me relever de cette chose. Elle était toute maigre. Je lui dis, vous savez où vous allez? Et c'est là qu'elle me répond, je pense aller au paradis, j'ai fait plus de bonnes choses que de mauvaises. Ah, je lui dis, vous avez fait des mauvaises? Elle me dit, bien sûr, mon petit. Elle pouvait, hein, parce que vu son âge et vu le mien à l'époque, elle pouvait. Et puis même aujourd'hui, hein, on aurait la même différence d'âge. Elle me dit, vu mon âge, bien sûr, j'ai fait aussi des choses qui n'étaient pas belles. Je dis, à cause de ça, vous ne pourrez pas aller au ciel. Ah bon? Elle me dit, c'est comment on fait alors? Ah, je dis, je connais le moyen. Le moyen, c'est Jésus. Vous ne méritez pas d'aller au ciel parce que vous avez péché, mais Jésus a pris vos péchés. Il prend tout. Tous vos péchés, toutes vos maladies, il prend tout. Et il va mourir sur la croix. Il meurt à votre place, vous méritez la mort, vous méritez la condamnation, mais il prend tout et il meurt sur la croix. Quand il meurt sur la croix, il est mis au tombeau. Vos péchés sont dans le tombeau. Vos maladies sont dans le tombeau. Et quand il va ressusciter, il revient, vos péchés sont au tombeau. Si vous dites oui, alors vos péchés sont effacés. Elle me dit, je veux le faire tout de suite. Et là, dans la chambre d'hôpital, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a ensuite été transférée, remise dans un autre hôpital. Et dans l'autre hôpital, elle témoigne à d'autres grand-mères. Je vais la voir dans l'autre hôpital. On avait créé un lien sympathique. Et il y avait une grand-mère qui était là dans la chambre, à qui elle avait témoigné. Elle dit, pasteur, j'ai quelqu'un, je veux que vous lui parliez. Et c'était une grand-mère qui tricotait des napperons à son curé. Elle dit, mais moi, vous savez, je n'ai pas besoin, parce que moi, je fais des napperons à mon curé, avec tout le bien que je fais, je suis sûr d'être sauvé. Alors je lui ai dit, imaginez un instant que vous êtes en pleine mer, vous êtes en train de vous noyer, Je dis, vous pensez que vous allez vous en sortir si vous jetez vos napperons, si vous appuyez sur vos napperons? On ne peut pas, on a besoin d'une planche de salut. Jésus est notre planche de salut. Le seul sauveur. D'ailleurs, si on était sauvé par les œuvres, Jésus ne serait jamais venu sur la terre des hommes. Ça ne sert à rien que Jésus soit venu pour mourir, puisque Dieu veut que tous soient sauvés sans faire d'œuvres. Et ça serait injuste, parce qu'un handicapé ne peut pas faire des œuvres. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Un handicapé ne pourrait pas faire des œuvres. Ça serait donc injuste pour cette personne-là. Or, Dieu ne peut pas être injuste. Dieu est amour. Quand un jour, dans la Bible, et il y a plusieurs histoires comme ça qui l'attestent, que Jésus est Dieu fait homme, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. La parole de Dieu a été faite chair. Jésus est l'incarnation de Dieu. Si Dieu se regardait dans le miroir, il verrait Jésus. C'est extraordinaire. Il est le reflet visible du Dieu invisible. C'est intéressant de le voir comme cela, non? Si Dieu se regarde dans le miroir, il voit Jésus. Parce que Dieu s'est incarné en la personne de Jésus. La parole fut entourée d'une chair. Pour être semblable à nous tous, pour pouvoir sauver les hommes, il fallait qu'un homme parfait meure pour des imparfaits. Il fallait que quelqu'un qui n'ait jamais péché puisse prendre nos péchés pour pouvoir être accrédité par Dieu. Et c'est ainsi que Jésus a décidé de venir sur la terre des hommes, que Marie fut avertie par un ange. D'ailleurs, on va parler de Noël bientôt, le programme des enfants ici. Eh oui. Qui va dire à Marie, tu vas être enceinte. C'est pas possible. Comment c'est possible? Je n'ai jamais connu d'homme. Moi, ça me donne une bonne référence. Ça veut dire que Marie ne savait pas. Hein. Je dirais entre parenthèses, ou même en ôtant les parenthèses, si elle était mère de Dieu, elle aurait su, non? Mais elle ne savait pas. Elle dit même, c'est pas possible. Or, vous savez, vous et moi, qu'à Dieu, tout est possible. Donc, elle manquait sans doute de foi. Non? Ben, il y avait un problème. Il y avait un problème, puisqu'elle n'arrive pas à croire ce qui était annoncé, le Messie viendrait. Et ensuite, elle a eu cet enfant qui s'appellera Jésus, qui va grandir. Et à 12 ans, elle va le perdre. Et elle va mettre 3 jours pour le retrouver. Si elle était mère de Dieu, elle aurait su où il était. Non? Enfin, moi, ça me paraît tellement logique. Paraît tellement basique. Et il va lui dire, et c'est lui qui va répondre, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi? Parce que le père a établi un plan de sauvetage pour nous tous. Je l'ai dit tout à l'heure, le paradis est prévu pour les hommes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que c'est pour le diable l'enfer. C'est pour les démons l'enfer. Il a été préparé pour eux. Mais malheureusement, tous ceux qui ne veulent pas faire de Jésus leur sauveur seront dans cet endroit. Ça sera leur choix. C'est notre liberté. Mais je pense qu'il faut être fou, inintelligent, pour ne pas bien raisonner. Parce qu'il y va de notre vie éternelle. Dans l'histoire où il est écrit « Tout est possible à Dieu », c'est un homme qui se pose des questions et qui dit « Mais comment je dois faire pour vivre la vie éternelle ?» Et il a raison, hein. Il est grand temps. Vous savez que parfois, on ne vit pas si longtemps que ça. Moi, ma petite nièce avait 20 ans quand elle est partie. Vous savez, on croit que ce qu'on voit. C'est un super dicton, ça. Hein? Moi, je ne crois que ce que je vois. Un petit microbe invisible l'a emporté en quelques jours. Personne ne l'a vu venir, ce microbe. En tout cas, dans toute la région où elle a été, tout le monde a été vacciné. Pourtant, personne ne voyait ce microbe. Vous comprenez ce que je veux dire? On est capable de dire des choses, mais on a besoin de raisonner autrement les choses. Que Dieu nous aide à les raisonner correctement. Dieu, je ne le vois pas, mais je sais qu'il existe. Le monde me le montre. Quand je regarde la beauté des paysages, Bien sûr, on peut voir ce qui est mauvais, mais ce qui est mauvais ne peut pas venir de Dieu, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est amour. Il a créé la terre, tout ce que nous avons, c'était beau, et c'est bon. Mais ça s'est déprécié à force à cause du péché. Il a dit, le Seigneur, qu'il viendrait lui-même pour nous sauver, et il est venu en la personne de Jésus. Il s'est fait homme. Il a grandi, il est venu mourir sur une croix. Et quand on voit cet homme, ces deux hommes mourir à côté de la croix de Jésus, je trouve ça tellement extraordinaire. Jésus est mort au bon moment pour deux hommes qui sont là à côté. Nous, on a la parole de Dieu qui nous montre tout cela. Mais il y avait deux brigands. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. On peut se mettre à la place de ces brigands. Nous aussi, on va mourir. Chaque jour qui passe nous amène à la fin. On peut mourir, je l'ai déjà dit, en bonne santé. On peut mourir de maladie, comme le prophète Élisée, atteint de la maladie dont il va mourir. Mais une chose est sûre, c'est que chacun est libre. Ces deux hommes à côté de Jésus, Jésus est au milieu. Jésus t'interpelle cet après-midi. Il veut te sauver, toi qui ne l'es pas. Il veut te guérir, toi qui es sauvé. Ou il veut te guérir, toi qui n'es pas encore sauvé, pour te prouver qu'il existe, pour que tu te donnes à lui. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. D'ailleurs, ces hommes à côté de Jésus vont lui dire, si t'es le Messie, fais en sorte qu'on descende de la croix et on se sauve. Tandis qu'un autre va dire, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. En gros, il invoque Jésus. Vous avez vu l'image même qu'il y a. Il y a Jésus au centre, à la hauteur des hommes pécheurs. Jésus, qui était la parole de Dieu faite chair, va descendre à la hauteur des hommes. Vous imaginez comme c'est beau. Et il appelle chaque homme par sa parole. Au-dessus de la croix, c'était marqué quelque chose. C'est-à-dire, eh oui, roi des Juifs. Vous imaginez, il était le roi des Juifs. Nous devons savoir qu'il est le roi des rois et qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Qu'il a cette capacité, parce qu'à lui c'est possible. Cet homme qui a demandé pardon et qui a demandé à Jésus de le sauver va s'entendre dire par Jésus, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Imaginez cette histoire, qui est en bas de la croix? Jean le Baptiste, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala. Le regard de cet homme n'est pas en bas de la croix. Le regard de cet homme est vers Jésus, celui qui est venu à leur hauteur. Parce que le seul et l'unique sauveur s'appelle Jésus. Pierre, qui deviendra l'apôtre, mais qui était pleinement évangéliste, va s'écrier partout. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a aucun autre. Aucun autre système. Christ sauveur. Christ m'a sauvé. J'avais presque 30 ans. Je ne croyais pas en Dieu. Je disais, c'était que pour les vieux et pour les enfants. Maintenant, je suis vieux. Alors. Vous imaginez, Vlasco, comment on pense, mais quand Dieu a touché mon cœur, ma vie fut changée, transformée. Quand Dieu est venu dans mon foyer, quel changement! Parce que Dieu existe réellement. Il change la vie des hommes. Et quand on voit un aveugle de naissance s'approcher de Jésus, quand on voit ces hommes crier pour demander à Jésus de les délivrer, quand on lit leur histoire, on se dit, mais moi j'aimerais vivre la même chose, n'est-ce pas? Quand il va rencontrer un aveugle qui est assis au bord du chemin, les disciples vont poser la question, est-ce que c'est de la faute de ses parents qu'il est né aveugle? Vous savez, on a des conceptions. On se dit, s'il est comme ça, eh bien les parents, qu'est-ce qu'ils ont péché, hein? C'est bien fait pour eux. Vous n'avez pas entendu ça des fois autour de vous? Oh là là, oh ses parents, c'est bien fait pour eux avec ce qu'ils nous ont fait. Hein. Ils l'ont bien mérité. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Jamais. Ça ne vient pas de Dieu, ces affaires-là. Le mal, le mot mal, ça vient, il y a le mot, une racine du mot malin. Du malin. Maladie. Non ? Malheureux. On a été créé pour être heureux, mais quand il y a eu le péché, le mal s'est collé au mot heureux. Ça a donné mal. Heureux, mais c'est collé. Hein. Le seul moyen, c'est de revenir à Jésus. Alors le mal s'en va. Et il va rester l'heureux. Vous êtes l'heureux élu si vous revenez à Jésus. C'est tellement simple. Dieu a voulu que nous soyons heureux. Et cet homme qui s'entend dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est merveilleux. » Et l'aveugle, là, qui est aussi au bord du chemin, vous ne pensez pas qu'il a envie de voir ? Vous ne pensez pas que les disciples disent ça, c'est de la faute des parents ou c'est de sa faute à lui ? Comme si lui, il avait péché dans le ventre de sa mère. Puisqu'il est né aveugle. Il n'a quand même pas péché dans le ventre de sa mère. Ça n'a pas de sens. Mais quelquefois, les hommes raisonnent en non-sens. Et Jésus va dire, non, il faut que je fasse les œuvres que je suis venu faire. Ésaïe avait dit que quand Dieu viendrait, je viendrai moi-même pour vous sauver, alors les aveugles verraient, les sourds entendraient, les boiteux marcheraient. Alors cet aveugle, il savait que si c'était le Messie, si Jésus était le Fils de Dieu, sur son chemin, il entendait des gens dans la joie qui chantaient, des gens qui critiquaient en disant « Oh, dans la ville là, Jésus il a guéri plein de malades, Jésus il a fait des choses extraordinaires. » Il y en a d'autres qui disaient « Oh, c'est quand même bizarre ce Jésus, ça doit être quelqu'un qui a dû monter une secte bizarre, une secte évangélique. Ça doit venir des États-Unis. » Mais à l'époque, ça n'existait pas les États-Unis, hein. Donc les évangéliques, ça ne vient pas des États-Unis. Les évangélistes non plus d'ailleurs. Hein, j'ai déjà dit hier, quelqu'un qui joue du piano, c'est un... Quelqu'un qui joue de la trompette, un trompettiste. Donc quelqu'un qui connaît l'évangile, un évangéliste. C'est tellement simple. Et au fond, cet homme a entendu des tas de raisonnements, mais lui, ce qu'il sait, c'est qu'il n'est pas bien et il a envie de voir. Alors quand il entend que Jésus passe tout proche, Jésus est ici, et à lui, tout est possible. Cet homme, c'est exactement la même chose. Il ne voit pas Jésus. Vous ne voyez pas Jésus. Vous voyez qu'un piètre prédicateur en face de vous. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus est là. Il est peut-être à côté de vous, il est peut-être derrière, il est peut-être là sur l'estrade ou à côté de moi, à côté de Joël, votre pasteur, peut-être aussi. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est là. Parce que c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu. Il le dit, et c'est une réalité. Je le crois de tout mon cœur. C'est pour ça que l'après-midi des dimanches, on doit amener plein de monde. On doit amener plein d'hommes et de femmes malades pour que les pasteurs prient pour eux et que Jésus les guérisse. Instantanément, qu'il se passe des choses merveilleuses. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de cet homme ? Il va prendre de la boue, de la terre, il va mouiller avec sa salive. Ce qui sort de la bouche de Dieu est puissant et donne la vie. Quand Dieu a parlé, le monde fut créé. Vous imaginez, nous avons entre les mains la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Pfiou, imaginez la puissance. Cette même puissance créatrice qui a servi à créer le monde et nous-mêmes, nous l'avons entre les mains. Dieu peut nous parler et créer en nous quelque chose de puissant. Quand Dieu a parlé à notre sœur, que je ne connais pas, j'ai entendu son témoignage. Elle a dit, j'ai lu dans Ésaïe 53, le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est Dieu qui a parlé. La puissance de Dieu commence à agir dès que je crois. Alors cet homme, Jésus va faire une pommade. Il va lui mettre sur les yeux de l'aveugle. Drôle de façon pour qu'il voie mieux. Il lui bouche les yeux pour qu'il voie moins. Il y a de quoi se poser des questions, non ? Mais Jésus a toujours quelque chose à nous exprimer. Il va lui dire, va au réservoir de Siloé. Ça veut dire, va au réservoir de l'envoyé. Parce que les Juifs savaient qu'un jour, car Ésaïe l'avait dit, que Dieu viendrait lui-même pour nous sauver. Il y avait donc un réservoir où les Juifs devaient se laver. Il y avait cette notion de pureté, cette notion en même temps du péché. Donc il fallait se laver pour ôter le péché, c'était une image. Le réservoir de Siloé, on y allait pour s'y laver, pour faire l'ablution de notre corps pécheur. Jésus lui dit, va au réservoir de l'envoyé. Moi je me dis, il est déjà aveugle, il lui met une couche sur les yeux et il ne le prend même pas par la main pour l'envoyer là-bas. Il a donc une démarche personnelle à faire, c'est d'aller jusqu'au réservoir de Siloé. Nous avons toujours une démarche à faire, c'est de venir connaître l'Évangile, d'entendre la prédication de l'Évangile et de décider de venir à Jésus. Cet homme l'a fait, qu'est-ce qu'il risque? Est-ce que Jésus lui a demandé un chèque? Est-ce que Jésus lui a demandé de passer d'abord par la synagogue? Non, à ce moment-là, non. Pas du tout. Les églises se mettront en place plus tard. Je parle des églises évangéliques, hein, parce que le catholicisme viendra 300 ans plus tard, sur le marché. Permettez-moi de le dire comme ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'église catholique n'existe pas au début. C'est l'église des chrétiens, tout simplement. Alors, il va aller au réservoir de Siloé, il va commencer à se laver. Et vous savez ce qu'il va voir en premier dans l'eau? La saleté qu'il a sur le visage. Parce que la boue va créer toute cette saleté sur lui. Hein. Il n'a jamais vu, ses yeux vont s'ouvrir, mais en même temps, il va voir un homme souillé. Nous sommes tous des pécheurs. J'aimerais vous répéter, nous sommes tous des pécheurs. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Qui peut se targuer d'être parfait à part Jésus? Cet homme réalise qu'il est guéri, c'est merveilleux. Et on va le reconnaître, c'est ce fameux aveugle qui était sur le bord du chemin, qui est complètement guéri, et il a de l'âge. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce qu'à Dieu, tout est possible. Quand j'étais au Bénin, dans ce grand rassemblement, j'ai vu comme cela des personnes malvoyantes, aveugles, retrouver la vue. J'étais émerveillé de voir ce que Dieu était capable de faire en un instant. Il y avait des auditoires de milliers de personnes. Quand j'ai prié pour les malades, Dieu les guérissait. Je disais même appuyé sur le pupitre, je disais au Seigneur, c'est trop. Ça criait dans tous les coins, mais ça criait parce que la douleur était partie, parce que des gens accidentés d'accidents de voiture, dont leurs membres étaient atrophiés, ou dont les genoux ne pouvaient plus marcher correctement, ils avaient des membres qui n'allaient pas du tout. Dieu rétablissait tout cela, instantanément. J'étais émerveillé. Émerveillé de voir à quel point ce Dieu Tout-Puissant qui a guéri un aveugle il y a plus de 2000 ans était capable aujourd'hui de faire la même chose. Je le sais, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je l'ai vécu de temps en temps en Europe, dans les églises où je suis passé aussi. Mais là, je le vivais en grand, comme le livre des Actes. Des centaines de personnes pouvaient témoigner de leur délivrance, de leur guérison instantanée. C'était merveilleux, parce que rien n'est impossible à Dieu. Le pasteur m'a emmené voir une petite de 12 ans qui était infirme, qui ne pouvait pas marcher. Ça faisait 2 ans qu'elle était comme cela. Il ne savait pas pourquoi elle était comme ça. Elle habitait à Porte-Novo, la capitale du Bénin. Les parents des industriels. Et donc, quand nous sommes arrivés avec le pasteur dans cette maison, donc ils ont placé la petite devant nous pour qu'on parle avec les parents. Et j'ai essayé de susciter sa foi en disant, tu crois que Jésus est capable de te guérir? Elle m'a dit oui. Les parents m'ont dit, nous on est chrétiens, on croit que Jésus est capable de faire quelque chose pour notre fille. Moi j'en ai la conviction aussi, comme chacun d'entre vous. Et puis, on a prié avec le pasteur qui était avec moi, Monsieur Dansou. Je lui ai imposé les mains. Le soir, il y a eu la réunion plénière où des milliers de personnes se rassemblent et viennent écouter l'Évangile. Vont chercher leurs bébés à l'hôpital qui sont mourants et le Seigneur les guérissait à la réunion. Quelle foi ! Il signait des décharges pour sortir des hôpitaux les enfants malades, pour les amener aux réunions, les seigneurs les guérissaient. Jusqu'où va notre foi parfois ? Oh, je ne dis pas de faire pareil, mais je dis que la leur, elle était d'une simplicité, mais en tout cas, que de résultats. Et là, dans l'allée centrale, je vois cette petite fille avec papa et maman venir en marchant. On était émerveillés. Pourquoi ? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Cet homme fut guéri. Un lépreux va crier à Jésus : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous savez ce qu'a fait Jésus ? Aussitôt, il a posé sa main sur le lépreux. Le plus pécheur des pécheurs. Au milieu de nous, il y a peut-être quelqu'un qui dit « Moi, je ne suis pas digne que Dieu pose sa main sur moi. » Mais Jésus n'a rien contesté. Il a dit « Je le veux, sois pur. Sois purifié de ton péché, de ta lèpre, de ta maladie. » Il fut sauvé et guéri. Le Seigneur te dit cet après-midi « Je le veux. Je veux te sauver. Je suis venu pour cela. » Je veux te guérir, j'en ai payé le prix, j'ai porté tes maladies dans tous les coups que j'ai pris dans mon dos. Chaque coup que j'ai reçu représente les maladies que tu as toi-même. Il n'y a pas de maladie orpheline que Jésus n'a pas portée sur son dos. Et on ne peut pas dire, oui, mais moi c'est une maladie orpheline, pasteur. Le Seigneur a porté toutes nos maladies. Et c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est déjà accompli. Lorsque nous prierons tout à l'heure pour que vous soyez sauvés, croyez que Jésus vous sauve. Et n'écoutez plus ce qui va se passer dans votre tête, car l'ancien propriétaire voudrait reprendre sa place. Quand on priera pour la guérison, croyez que vous êtes guéris. Et instantanément, le Seigneur le fera. Si ce n'est pas instantané, ça ne sera pas un miracle. Et ne vous dites pas, j'ai encore ma douleur. Dites à cette douleur, maintenant tu n'as plus ta place. Va-t'en, car Jésus m'a guéri. Il faut que nous affirmions la foi. La foi est une véritable affirmation. Vous savez, un homme qui s'appelait Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il savait même qu'il allait passer de l'autre côté. Il disait même, eh bien, qu'il lui restait que la peau des dents. Mais il disait, je sais qu'un jour mes yeux le verront. Même si je pars, mes yeux le verront. Et je crois que nous aussi, notre foi doit nous amener à cela. Croire sur parole, la parole puissante de Dieu. Parce qu'à lui tout est possible. Amen. Le Seigneur désire sauver. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Sa mort à la croix est parfaite pour que tu sois parfaitement sauvé. Il dira, tout est accompli pour le plus misérable des pécheurs. J'aimerais encore vous dire une chose importante. Le diable veut que vous ne croyiez pas, parce que vous ne voyez pas. Vous savez, lui, il a vu comment c'était là-bas. Il sait que c'est beau et bien. Mais lui, ce qu'il sait maintenant, c'est que comme il a été précipité en bas, il ne peut plus y aller. Alors il n'a sûrement pas envie que vous, vous y alliez. Donc il fera tout pour que vous disiez non à l'appel de Jésus. Il faut donc dépasser cela et dire, qu'est-ce que je risque de dire oui ? Change ma vie, Seigneur. Viens dans mon cœur. Il est dit dans l'Écriture, et l'Écriture est la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, qui est la lumière du monde, à tous ceux qui croient en son nom, le nom au-dessus de tous les noms. Il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Simplement parce qu'on croit et parce qu'on le reçoit. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi et pas par les œuvres. C'est donc un don divin. C'est le don que Dieu nous a fait en venant sur la terre des hommes en tant qu'homme lui-même. On va prier le Seigneur.